Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Isabelle avec vous pour les deux prochaines heures. Tout un programme aujourd'hui. On va parler de soccer, on va parler de foot, bien sûr. Il y a la Coupe du Monde, il y a l'Euro qui bat son plein, il y a plein de choses. Et il y a surtout vous, peut-être, parents de jeunes qui jouez dans toutes sortes d'activités parascolaires, de sportives, que ce soit le soccer, que ce soit le hockey. Pas besoin de vous... Bon. On parlera pas de la défaite du Canadien hier. C'est pas grave. C'est un très, très, très beau match. Ils se sont donnés. Puis ça va aller de mieux en mieux. On va parler donc de sport en deuxième heure d'émission. On va parler aussi en cette journée contre la maltraitance des aînés. C'est le 15 juin. On va parler de maltraitance, justement. Vous savez qu'il y a un projet de loi qui vient d'être déposé il y a quelques jours par la ministre Marguerite Blais. On va en parler. On va surtout revenir aussi sur le sujet qu'on a abordé hier. Hier, on parlait de maltraitance financière, particulièrement de cas d'aînés qui se faisaient flouer par des gens malveillants. Des fois, c'est leurs proches. Et vous avez été très nombreux tout au cours de la journée à m'écrire là-dessus puis à me témoigner de ce dont vous êtes témoin. Alors aujourd'hui, comme c'est la journée officielle, 15 juin, journée contre la maltraitance faite aux aînés, on va en reparler puis je vais vous donner l'occasion également en deuxième heure, vers 11h, de me dire ce dont vous êtes témoin. Puis on va essayer de vous aider. Là. Il y a des numéros que je vais pouvoir vous donner pour vous donner des ressources. C'est ça qui est important. En première heure d'émission, je vous propose de parler de véhicules électriques. D'abord, il y a plusieurs choses. Hier, ben, vous avez peut-être vu, le G7 a envoyé un signal très positif pour le climat. Là. Moi, je vous avoue, depuis que j'ai vu l'exposition de mon ami Mario Cyr, allez voir ça au Cirque Éloise.
Ah oui.
Ah, l'ours polaire qui essaie de se débattre dans de la glace qui lui fond sous les pieds. Sincèrement, je recycle plus de la même façon. Je vous le dis, là, ça m'a perturbé. Les enfants avec qui j'étais, les filles, on sont perturbés aussi. On se dit tout, mon Dieu, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour aider un peu la planète? Et là, quand on voit que le G7, tous les membres du G7 sont d'accord pour dire, ben il faut vraiment qu'on atteigne une carboneutralité d'ici 2050, ça remet un peu en question les piètres cibles du Canada et de Justin Trudeau en matière de gaz à effet de serre. Ça confirme, selon Greenpeace, que le Canada est un cancre du climat. Et ça confirme aussi que notre premier sujet est vraiment d'actualité, puisqu'on va parler de véhicules électriques. Quand on parle de carboneutralité, quand on parle de baisse des gaz à effet de serre, ça passe pas mal par une réduction du pétrole et de l'essence et des véhicules à essence. Et vous savez qu'au Québec, c'est à partir de 2035, le gouvernement Legault a décidé d'interdire la vente de véhicules neufs à essence à partir de 2035. C'est demain, c'est dans 14 ans, là. Ça arrive. Or, il y a un dossier très intéressant qui vient de sortir ce matin dans le Protégez-vous, qui a été préparé par mon invité Alain McKenna. Merci d'être là, Alain.
C'est plaisir.
J'ai lu ça avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Puis ça confirme ce qu'on a eu comme discussion avec Benoît Charrette, mon autre invité. Merci d'être là, Benoît.
Ben, merci, Isabelle.
Tous les deux en studio, pour la première fois, on est tout énervés. J'ai jamais vu de monde.
On se peut plus. Là.
Écoute, on n'a pas vu de monde. Je vous rassure, tout le monde que vous écoutez, là, il y a comme trois couches de plexiglas.
Oh oui, ben, oui.
Mais on se voit au moins.
On ne peut pas se postillonner. Il n'y a aucune chance.
Oh mon Dieu, non, certain.
Mais on retrouve l'atmosphère de studio.
Écoute, c'est vraiment excitant. Ben, oui, on retrouve certains gestes qu'on avait perdus. C'est fascinant. Tout ça pour dire que. On retrouve dans ton dossier, Alain, un peu ce qu'on dit chaque fois qu'on parle de véhicules électriques avec Benoît, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un engouement, puis surtout nous au Québec, mais il y a quelque chose qui freine quand même le fait que c'est pas tout le monde qui en a un véhicule électrique. Et on revient toujours aux mêmes arguments contre, finalement.
Ben, il y a des limites pour les consommateurs, mais aussi la disponibilité. Les fabricants ont beaucoup de misère, surtout en ce moment, à cause d'un paquet de pénuries de morceaux à gauche, à droite. De livrer parce qu'ils ont fait plein de promesses. Il y a des fabricants qui n'ont pas rempli ces promesses-là. Donc, il y a un paquet de petits détails comme ça. Évidemment, il y a l'infrastructure. Est-ce qu'on peut charger à la maison ou pas? Dépendamment d'où on reste, c'est bien compliqué. Mais l'élément de base, toujours, ça coûte cher. Fait que, ce qu'on a fait dans le Protégez-vous, dans l'édition de ce mois-ci, c'est qu'on a fait un petit calcul pour savoir ça coûte si cher que ça. Si on l'étale, si on l'amortit sur un an, deux ans, quatre ans, cinq ans, dix ans. Puis, je veux dire, quand on regarde les nouveaux modèles qui viennent de sortir, c'est pas si cher que ça. Dans l'industrie automobile électrique, disons-le comme ça, en tout cas de la mobilité électrique, on calcule que d'ici 2025, le prix coûtant d'un véhicule électrique va être à peu près la même chose qu'un véhicule à essence. Donc, sans même l'aide du gouvernement, donc on s'en va vers...
2025, tu dis. Ouais.
Disons, dans un horizon de 5 ans environ, là, c'est sûr qu'on est en 2021, donc ça peut être dépassé un peu, mais l'idée, c'est de dire que les coûts baissent, surtout parce que le coût des batteries baisse, qui est le gros enjeu. Ouais. Et ça va rendre les voitures électriques plus... Parce qu'évidemment, les fabricants ne vont pas nécessairement vendre des véhicules à 10 000 $ Ça va les rendre plus performants aussi. Fait qu'on va trouver un équilibre quelque part où ça va être relativement achetable, ça va être assez performant en termes de recharge, en termes d'autonomie.
Ce qui est intéressant, Isabelle, c'est qu'on s'est servi des premières années de fabrication de véhicules électriques pour améliorer la performance des piles. Tu sais, faut pas oublier qu'il y a 10 ans, un kilowattheure de piles, ça coûtait un peu plus de 1 000 $ On est à 1100 $ On est rendu à peu près à 183 $ C'est pour donner une idée à quel point ça a baissé. Mmh. Sauf que il y a 10 ans, les véhicules faisaient 125 km, 130 km. Donc, ça intéressait pas beaucoup de gens. Là, on est rendu à 400, 500. Bon, Tesla est monté à 600 et plus. Donc, on a atteint, je pense, un équilibre intéressant où on est capable, avec une charge électrique, de faire à peu près la même distance qu'un plein d'essence. Bon, bien, à partir de là, une fois qu'on a atteint l'équilibre, là, il va arriver les piles à électrolyte solide qu'on prévoit pour 2025. C'est ce que
Alain disait tantôt. Oui, bien, ça, c'est l'autre truc. Ça va s'améliorer de ce côté-là aussi.
Ça va s'améliorer parce que ces piles-là coûtent moins cher et offrent une meilleure autonomie.
Donc, c'est quoi exactement cette technologie?
Bien, c'est la composition de la batterie comme telle. C'est les éléments chimiques qui vont changer. En ce moment, on a des piles au lithium qui coûtent assez cher, qui sont assez compliquées à fabriquer, qui ont certaines limites, disons, au niveau du comportement, de la gestion de la chaleur, des choses comme ça, de la recharge aussi.
Et des métaux rares aussi.
Je pense que la prochaine génération de batteries, d'ailleurs dans laquelle Hydro-Québec détient des brevets, là, donc ça risque d'être assez intéressant pour Hydro-Québec aussi.
Hydro-Québec travaille avec Mercedes, donc les piles solides de Mercedes-Benz vont avoir été développées en partenariat avec Hydro-Québec. Ouais. Et il n'y a pas de métaux rares, donc ça fait une pile qui coûte moins cher. Mm-hmm. La capacité d'emmagasinage, on peut le dire,
de stockage,
pratiquement le double. Et on peut recharger, en tout cas, les piles qu'on essaie en ce moment, on peut recharger au complet à peu près en 20 minutes.
Mais là, vous êtes déjà rendu à la batterie puis à la recharge. C'était dans ma liste d'arguments. Là. J'avais fait la liste des freins à l'achat là, qui demeurent. Oui. Il y avait d'abord, puis je me fie au sondage KPMG de janvier dernier que tu cites dans ton article, Alain, qui est le prix. Prix, là, ça me paraît être, puis on en parle chaque fois, Benoît, le prix, c'est le frein numéro un, vous diriez?
Ben oui, puis Alain a raison, les prix baissent, sauf que à l'achat, il y a encore un bon montant à débourser et souvent le frein est là. Mais regarde, là, cette année, le Chevrolet Bolt, le modèle 2022, le prix a baissé de 8 000 $ par rapport au 2021. On parle de 36 000 $ pour un véhicule qui va vous donner à peu près 415 km, 417 km. On s'approche des prix à peu près là, d'un véhicule ordinaire.
Ben, à partir sur mon deuxième point qui est le look, veux-tu vraiment rouler en Chevrolet Bolt? Ça, c'est l'autre affaire.
En fait,
mais
beaucoup de gens.
Ça, c'est
question
beaucoup
de
non-rationnel.
La question
de
l'achat. Le look, le prix, le look, c'est relié.
Il y a un peu du phénomène de la vitrine technologique dans les autos électriques. Ils ne font pas juste dire ben, voici une voiture qui est pareille à l'autre, mais elle a une batterie au lieu d'avoir un moteur à essence. Fait que souvent, ça peut être un frein, ça aussi, dire elles sont affreuses, puis sont aussi, tu sais, en dedans, ils enlèvent des morceaux, ils changent des cadrans de place, c'est un peu bizarre. Il y a ça des affaires, en tout cas, il y a des efforts de design dans la voiture électrique qui sont probablement un peu déroutants pour bien des gens qui veulent juste avoir un char, tu sais.
Exact, puis déjà, la technologie électrique, c'est très différent. Là. Il y a déjà là une adaptation à faire. Fait que peut-être leur dire, changez pas tout en même temps, là.
Ouais. Ben, y a des véhicules qui sont plus raisonnables que d'autres. T'sais. Dans les véhicules qu'on recommande, la Hyundai Kona électrique, c'est une voiture qui est tout à fait
Ça me paraît être la plus intéressante, sincèrement.
C'est une de celles qui valent le détour définitivement.
Moi, si tu t'en achetais une, Alain...
Non, moi, j'achèterais pas une auto neuve. Je peux te dire ça?
Ben, tu peux te dire ça, certain.
Absolument.
T'achèterais une usagée, une électrique usagée?
Écoute, je regarde surtout, ben là, je veux dire, on change un peu dans la conversation, mais j'irais du côté d'une Tesla usagée parce que ça enlève premièrement la valeur à neuf qui coûte très cher. Là. Souvent, il y a des dépréciations au départ, il y a un montant là. Puis dans le cas de Tesla, ils ont prouvé, parce qu'eux, ils sont là depuis assez longtemps, leurs voitures sont plus durables que ce qu'on anticipait. Donc, il y a cette combinaison-là de ça va probablement durer un petit peu plus longtemps que ce qu'on pensait. Puis, tu sais, on parle du prix, on parle de l'autonomie. Il y a une perception aussi. Tu sais, on n'a pas l'impression, on ne s'en rend pas compte parce qu'on se dit, c'est cher à l'achat, mais sur le long terme, on rentabilise rapidement. Puis l'autre truc avec l'autonomie, c'est que c'est pas comme on fait pas le plein en route. On fait le plein à la maison dans la plupart des cas, ou la nuit, en tout cas, quand on ne sort pas l'auto. Ben, fait qu'on a toujours comme une voiture pleine au matin.
Ouais.
On peut faire notre journée de voyagement ou peu importe. Puis pour une voiture comme une Tesla qui a une bonne autonomie, même usagée qui serait à 80-85% de sa capacité optimale.
Ouais, puis honnêtement, pour les gens qui voyagent pas mal, Tesla est le manufacturier qui a le plus de bornes de recharge un peu partout. Si vous allez aux États-Unis, entre autres, on est en train de monter les réseaux pour plusieurs. c'est bon pour autour, si on reste au Québec, ça, mais si on va plus loin, Tesla, pour le moment, a un avantage sur les autres constructeurs de par la quantité de superchargeurs qu'ils ont installés un peu partout.
Et bientôt de restaurants.
Ce n'est pas les mêmes chargeurs.
Et bientôt de restaurants. En fait, non. Les chargeurs de Tesla sont particuliers au modèle Tesla parce que quand on a instauré ces chargeurs-là, c'était, en fait, c'est encore gratuit pour les gens qui ont une Tesla S. Je pense que les Tesla 3 puis les Y, là, 2019, ça a changé. On paie maintenant. Mais donc, pour assurer que c'était une exclusivité à Tesla, ben on avait des chargeurs particuliers pour les modèles Tesla.
Si je te pose la question, toi, Benoît, si tu avais à t'acheter un véhicule électrique?
Moi, j'aime les voitures sport. J'ai toujours aimé les voitures sport. Je vais encore aimer les voitures sport. Peut-être que rendu à 80, on aura une autre conversation. Mais avec... Bon, si j'avais les sous, je n'ai pas les sous.
C'est ça, sport écouteux, tu voulais dire.
Sport, ben, j'ai beaucoup aimé la Taycan. Qui est une machine extraordinaire et 100% électrique, mais c'est cher.
C'est
bien équipé, c'est 200 000. On parle d'un prix qui est vraiment cher, mais j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai à l'essai cette semaine la ID4, la ID4 de Volkswagen, qui a le petit côté, on est entre la voiture et l'utilitaire. C'est-à-dire que ça a la conduite d'une voiture, mais le toit est juste un petit peu plus haut. On amène un bon compromis. J'avais presque 400 km d'autonomie quand je l'ai prise. Ça, pour des déplacements là, au quotidien, ça ferait très bien le travail, absolument. Puis là, on a un modèle américain 2 roues motrices, mais on va avoir en premier ici un modèle 4 roues motrices. Donc ça, c'est intéressant parce que l'hiver, ça rend la conduite agréable aussi. Mm-hmm. Je pense que ça serait un choix. Puis Volkswagen font toujours des efforts pour mettre un côté conduite intéressant. Parce que, tu sais, moi, faut que j'aie un sentiment de conduite un peu dynamique, nerveuse. J'aime ce genre de conduite-là. Puis les autos qui me redonnent rien comme sensation au volant, ça m'intéresse pas bien.
Ouais, non, c'est ça. Bon, en même temps, la Bolt, là, il y a Élise qui me dit qu'elle adore sa Bolt. Elle la trouve pas laide du tout. Elle dit que c'est un des meilleurs vendeurs au Québec. C'est genre, critique pas mon auto. Oui, non, mais c'est vrai. Non,
à juste titre.
Moi,
aussi,
mais oui, tout à fait.
Non, en fait, et ça va très bien.
C'est un peu
bien.
Une blague, mon
ça
commentaire.
Va, oui, là, ça va très
bon,
bien.
C'est tellement une question de goût, la voiture. Moi, c'est sa forme allongée que j'aime un peu moins, mais c'est une voiture qui est tout à fait correcte.
Ben, de toute façon, le choix s'en vient, parce qu'il y a un paquet de nouveaux modèles qui s'en viennent d'ici 3 à 5 ans. Donc, les gens qui sont en train de se demander ma prochaine voiture, ça va être quoi? Il va y avoir du choix dans les prochaines années, au-delà de ce qu'il y a en ce moment sur le marché.
Oui, c'est ça. Là, vous parlez dans le Protégez-vous, Alain, vous parlez de la Bolt. La Tesla Model 3, la Kona, le RAV4 Prime, la Pacifica hybride, la Clarity.
Oui, ça, c'est les hybrides branchables. Voilà. Évidemment, le RAV4 Prime, je pense qu'il faut attendre maintenant un an ou deux pour l'avoir. Il y a évidemment des listes d'attente pour les véhicules qui sont très en demande, mais il y a effectivement du choix. Du côté des tout électriques, mais pour les gens qui hésitent un peu, qui veulent la fameuse autonomie prolongée, disons, d'une hybride branchable. Il y a aussi des bons modèles de ce côté-là.
Mais ce que j'en remarque, c'est quand même des véhicules là, qui, tu sais, à partir de... Tu sais, la Bolt, elle est 42 348 à partir d'eux.
Ouais.
Toutes les autres sont plus chères. Ça va même jusqu'à, évidemment, la Tesla, ça peut même être jusqu'à 75 000 pour le modèle 3. Là, donc,
très cher.
Mais Alain
ça amené, reste coûteux.
Ça reste coûteux, mais Alain a amené un bon point. Moi, je donne l'exemple de quelqu'un que je connais qui s'est acheté une Nissan Leaf 2014, qui a payé 12 500. Ils ont encore entre 100 et 120 km d'autonomie, là, dépendamment de la saison. Puis lui, c'est pour aller travailler. Il travaille à 40 km de chez lui. Il prend ça soir et matin. Dans la famille, sa femme a une voiture qui est un modèle hybride. Donc, s'ils veulent aller plus loin, ils peuvent aller aussi loin qu'ils veulent avec le modèle hybride. Mais dis-lui, il a acheté ça en 2018, donc ça fait 3 ans qu'il ne met plus d'essence pour aller travailler. Donc, tout dépend des besoins qu'on a. On n'a peut-être pas besoin d'avoir un véhicule qui a 400 km. Si le plus loin qu'on va, c'est à 50 km de chez soi. Et on n'a pas à payer 50 000. On peut l'acheter d'occasion.
Ouais.
Et la beauté des moteurs électriques, ça ne brise pas. C'est très durable, un moteur électrique. C'est une mécanique qui est immensément moins compliquée qu'un moteur à combustion interne. Il y a moins d'entretien à faire. À part la perte d'autonomie que vous allez avoir un peu au fil des ans, le reste, tout marche. Là.
Voilà, il y a José qui m'écrit, elle a une Leaf, première génération, vraiment pas beaucoup d'autonomie, mais j'adore ma voiture. J'ai appris à conduire pour justement ne pas vider ma charge lors de mes déplacements. À y penser, avoir des remorqueurs qui pourraient offrir la charge rapide, des fois, quand il y a du trafic, ça m'inquiète un peu de rester pris aussi. Si on achète de seconde main, ce que j'ai fait, l'auto doit venir des États-Unis, sinon... on n'a pas la ristourne qui a déjà été remise à l'acheteur original.
C'est le 4 000 $, le fameux 4 000 $ qu'on a sur l'occasion, effectivement.
Le temps file. On va tout de suite à la pause. Vous me direz comment vous voyez ça. Est-ce que vous avez un frein important à l'achat d'un véhicule électrique? Est-ce que pour vous, c'est le prix, le look, la batterie, la recharge, le fait qu'on parle beaucoup du long terme, mais au Québec, combien de temps on aime garder nos voitures? Ça, c'est l'autre question aussi. Il y a beaucoup de gens aussi qui optent pour la location parce qu'ils se disent au bout de 3-4 ans, regarde, c'est plus mon problème. Donc, vous me le dites, tout ça, 514-790-9850. Bien sûr, si vous avez des questions pour nos spécialistes, n'hésitez pas. De l'extérieur, vous faites le 1-866-790-9850. On a Gabriel au bout du fil. Bonjour, Gabriel.
Bonjour.
Est-ce que vous avez l'intention de vous acheter un véhicule électrique?
Bien, pas tout de suite, parce que moi, ce qui m'intéresserait vraiment, ce serait d'avoir une mini-fourgonnette, une minivan électrique. Je connais la Chrysler Pacifica, qui est hybride, mais j'ai hâte qu'il y ait un modèle full électrique. Je ne sais pas si...
Pour le moment, non, c'est pas dans les plans parce que des fourgonnettes, il n'y en a pas des masses. Là. On parle de Honda, on parle de Toyota, on parle de Kia, on parle de Chrysler.
Il y a Volkswagen qui traîne depuis longtemps son fameux prototype de microbus électrique.
2023.
Microbus?
Oui,
wow.
En fait, c'est une...
On pourrait-tu vivre dedans?
Ben, c'est un peu ça le concept.
Essentiellement, il va y avoir trois versions. Une version passager, là, comme on la connaissait, une version commerciale qui va être fermée, et une troisième version, mais on parle de 2023. En fait, c'est le prochain arrivé. Là. On a la ID4, la ID4. Il y a la ID6 qui est en Chine, qu'on n'aura pas, mais en tout cas, pas tout de suite, mais on m'a confirmé du côté de Volkswagen, parce que j'ai appelé cette semaine, c'est pour ça que j'ai l'information. On m'a confirmé que c'est le prochain en liste, le ID Buzz. Qui s'appelle
ID Buzz.
C'est le prochain en liste, mais pas avant 2023. Fait que monsieur devra encore un petit peu patienter.
Ils prennent pas de commande tout de suite. Là.
Ils prennent pas de commande tout de suite. On n'a pas le prix non plus, mais il est vraiment beau. Franchement,
il y a un
petit côté, un énorme côté nostalgique, mais très
2023
réussi.
2023 au Québec ou 2023
sur le marché.
Donc 2020.
Ça peut. Faut calculer un 6 mois avant qu'il apparaisse chez nous. Volkswagen en général, là, il y a un délai entre ce qui se passe en Europe et ce qui se passe chez nous. Mm-hmm. Mais on m'a dit 2023 pour le Canada. Bon. On n'a pas précisé le mois.
On a Julie avec nous. Bonjour Julie.
Oui, bonjour. Moi, j'ai acheté une Hyundai Ioniq 2019 la semaine dernière.
Oh, wow!
C'est vraiment, on magasinait une voiture hybride rechargeable, puis finalement, à force de regarder puis de comparer, mon conjoint fait 30 km par jour. Donc, on n'a même pas besoin de la brancher à tous les jours. Je sais que la batterie a à peu près 200 km d'autonomie, mais je me posais la question, nous, on la recharge durant la nuit chez nous sur le 110. Donc, ça prend à peu près 8 à 10 heures pour recharger, puis ça nous convient très bien. Mm-hmm. La seule chose, c'est que je me rends compte qu'il y a des journées, on prend la voiture, j'ai 195 kilos disponibles. Il y a d'autres journées, je peux aller jusqu'à 230. Qu'est-ce qui fait la différence?
En fait, la question est souvent posée. C'est parce que c'est des systèmes adaptatifs au niveau de la conduite. Et selon la conduite que vous avez, selon l'historique de conduite, l'autonomie va varier. Il y a même des gens qui ont fait reprogrammer des véhicules parce que on n'arrivait pas à dépasser un certain kilométrage. Mais faites-vous-en pas, c'est pas anormal. Là. C'est simplement qu'on enregistre la façon de conduire et on l'enregistre de façon à ce que si vous le repartez selon la dernière fois, vous allez en faire tant. Mais c'est un peu le système. Là.
On a Jacques au bout du fil. Bonjour, Jacques.
Bonjour, moi j'ai commandé un Toyota Prime SE, un RAV4. Je voulais savoir si j'ai fait une bonne affaire.
Ben, quand vous allez la voir, oui, parce que j'imagine que vous êtes sur la liste d'attente, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'attente pour ce modèle-là.
Il y a 15 mois d'attente.
Oui, c'est ça.
Son gros défaut, en fait, c'est ça, parce qu'ils n'en ont pas beaucoup.
Ben, il y a une usine au monde qui produit des Toyota RAV4 Prime, qui est au Japon. Tout en fait... tout l'effectif canadien a été envoyé au Québec. Mmh. Il y avait presque 1000 modèles qui étaient destinés au Canada. Et Toyota a envoyé littéralement la première vague de modèles chez nous, sauf que l'usine n'en produit pas assez pour la demande. Puis avec les 13 000 parce que le modèle a droit aux 13 000 de rabais parce que la pile électrique est assez grosse pour le 8 000 de rabais. Ça fait que le RAV4 Prime, qui a une autonomie d'à peu près 65 km, ben revient moins cher que l'hybride régulier à cause des rabais.
Exact.
Et là, ben au Québec, il y a une demande très forte qui n'est pas nécessairement ailleurs parce qu'il y a moins de rabais. Donc, c'est pour ça qu'on a tout envoyé au Québec. Mais on dit que l'année prochaine, bon, et puis là, je cite Toyota, qu'on va avoir plus de modèles disponibles, qu'on va essayer de réduire la liste d'attente parce que là, effectivement, c'est 15 à 16 mois pour avoir un modèle.
Et dans ce temps-là, Alain, quand ça prend autant de temps, Alain ou Benoît, là, il n'y a pas un problème de... Toi, ton véhicule, tu l'as commandé aujourd'hui, mais tu l'as dans un an, peut-être même et demi. Pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui ont... Il n'y a pas une question de technologie qui vient des... Je comprends, là, un an et demi.
Il y a un risque. Ben oui,
ben, il y a ça parce que c'est quand même long, là.
Ben oui. Ben, surtout à la vitesse que ça bouge dans le monde électrique, il va arriver d'autres modèles hybrides. Bon, il y a des gens qui vont l'attendre, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui se sont dit, bon, j'ai pas 15 mois, là. Moi, je veux un véhicule dans le mois qui s'en vient.
Mais si t'es pas pressé, tu pourrais dire, regarde, je vais attendre.
Exact.
Mais en même temps, quand il arrive dans un an et demi, il y en a eu d'autres peut-être sur le marché, là.
Ben, dans ce cas-ci, c'est pas si mal parce que le RAV4 Prime, c'est un des bons véhicules. C'est d'ailleurs, okay. Je pense qu'on le recommande. Le recommande dans le Protégez-vous. Mais ouais. Oui, non, effectivement, c'est sûr que ça change vite. Puis, tu sais, on le dit toujours, hein, de plus en plus, les voitures, c'est comme des téléphones sur quatre roues. Là, c'est comme des appareils, des gros ordinateurs informatiques qui évoluent très rapidement. Donc, ça va changer de plus en plus vite à mesure que.
Exact. Puis, il y a d'autres modèles qui vont arriver. Tu sais, bon, on parle du MX-30 du côté de Mazda qui va être 100% électrique au début. Mais on va amener un prolongateur d'autonomie. Donc, il va avoir un modèle hybride rechargeable. Là, on ne sait pas encore s'ils vont garder le même moteur électrique parce que l'autonomie est que de 200 km dans le MX-30. Là, ça va peut-être faire déchanter un certain nombre de gens. Mais si on l'amène avec un prolongateur d'autonomie et qu'on garde le 200 km en électrique, là, ça devient pas mal plus intéressant. Mais on va voir. Puis il y a d'autres modèles. Alain le disait tantôt, là, il y a entre 20 et 25 modèles dans les deux prochaines années qui vont arriver. Fait que là, va augmenter, puis il y a peut-être des gens qui vont dire, bon, ben tant qu'à attendre un an, m'aller chercher un tel parce qu'ils sont disponibles. Mm. Tu sais, c'est ce qui fait la popularité d'une compagnie comme Tesla. Tesla, on commande, puis on n'attend pas 10 ans. Là.
Ils ont pris de l'avance.
Puis Chevrolet a promis, en fait, GM a promis que les modèles avec qui s'en viennent avec les fameuses piles lithium, qu'on va fournir à la demande. Parce que le problème en ce moment est là. Beaucoup de modèles restent en Europe, des modèles européens, parce que les normes environnementales sont plus sévères en Europe. Donc, on doit répondre à cette demande-là. Il y a beaucoup de demandes du côté de l'Europe aussi. Donc, les usines fournissent à peine la demande européenne. Fait que les modèles arrivent ici au compte-gouttes. Il va falloir que la capacité de production des constructeurs augmente pour être capable de répondre aux normes et aux demandes qu'on a ici.
Mais à quand une usine ici?
On en a quelques-unes.
Ça n'est pas une usine de quoi?
Un véhicule électrique québécois, est-ce que ça se peut?
On verra pas ça.
Non. Pas québécois.
Pas un véhicule grand public. Il y a des véhicules commerciaux, des autobus.
Oui, mais
Nova va en faire aussi.
Des camions aussi, mais des voitures, des véhicules pour les particuliers, on n'en aura pas. Je sais qu'il y a la volonté dans l'industrie de créer des batteries, de produire des batteries de bout en bout ici, de l'envoyer en Ontario. Il y a une alliance Québec-Ontario
Il y a Bolloré qui fait déjà des piles ici.
Oui, il y a déjà des morceaux. Ce qui manque, c'est des cellules. En tout cas, bref, c'est une longue chaîne. C'est plus long que ça en a l'air quand on regarde un peu loin. Mais il y a une mise en place qui est en train de se faire.
Parce qu'il faut qu'on soit un joueur là-dedans. Là.
Bon, on a toutes les ressources possibles. Il y a la volonté,
exactement.
Il y a la demande.
Donc, il ne faut pas regarder passer le bateau, regarder passer le
bateau. Au niveau des piles, il va y avoir des fournisseurs parce qu'il va y avoir des usines électriques en Ontario. Ford est en train d'en faire une. GM va en avoir une. On va réoutiller du côté de chez Chrysler pour le futur et probablement qu'il va en avoir une aussi. Mais au Québec, on va jouer un rôle primordial comme fournisseur, puis on espère qu'une compagnie comme Hydro-Québec, qui a une technologie très évoluée, va avoir son mot à dire. On le fait avec Mercedes. Est-ce qu'on va aller plus loin? Les gens de Hydro-Québec sont assez hermétiques parce qu'on a déjà trop parlé dans le passé et on s'est promis de plus trop ouvrir la bouche sur ces projets-là. Mais il y a des choses qui se travaillent de ce côté-là.
Mm-hmm. On vient d'apprendre, là, ce matin, il y a un projet là, pour aller desservir de l'électricité dans l'État de New York, dans la ville de New York, d'ailleurs.
Oui, ça, là, on parle des lobbies du gaz, des lobbies du charbon, parce qu'il y a deux autorités. Il y a NEPOL et NEPA, le New York Power Authority. NEPOL, qui est à la base du côté des Mohawks.
Oui, mais je trouve ça intéressant, cette
Et depuis ce longtemps,
PPP,
l'usine de Bornois. Ouais. Parce que mon père travaillait à Hydro-Québec, je connais assez bien ce dossier-là. L'usine de Bornois, entre autres, envoie tout son électricité aux États-Unis là, depuis des années. Puis c'est extrêmement payant pour l'État. Là, parce que l'électricité à Bornois ne coûte rien à produire. Là, on parle d'à peu près 1,2 cents du kilowattheure. Et on revend ça à des gros prix pour climatiser, surtout climatiser la ville de New York. Et là, on peut envoyer de l'électricité propre. Tout le monde est d'accord, sauf les gens qui travaillent dans le gaz, le pétrole puis l'huile. Hein, qu'eux autres qui essayent, qui tiennent leur bout pour pas que ça passe la frontière. Mais moi, j'ai bon espoir que ça va passer parce qu'il n'y a rien qui est plus propre que ça pour le moment. Là.
Exactement. On va s'arrêter ici. Très courte pause. On revient avec vos commentaires et vos questions. Bon, il y a beaucoup de questions des auditeurs, beaucoup de gens qui rêvent aussi de voitures qui n'existent pas encore. La Mazda électrique, il n'y en a pas, là.
Oui, bien, c'est ce qu'on en parlait tantôt, la MX-30, là, qui s'en vient, en fait, 2022, là.
C'est un peu comme le CX-30, là, dans le fond.
En fait, moi, j'ai essayé le moteur dans un mulet, c'est-à-dire que c'était un châssis de CX-30, mais on avait le moteur de la CX-30. Puis ça fait... C'est avant la pandémie. Alors, ce modèle-là est prêt depuis un certain temps, mais la pandémie, il faut que les gens comprennent. Là, pandémie et puce électrique, puce électronique, là, ça a retardé beaucoup de projets de 6 mois, 1 an, puis même un peu plus dans certains cas.
Quelque chose qui n'a pas été retardé.
Oui, bien, c'est ça. Alors,
il y a quelqu'un qui dit tous les véhicules, tous les concessionnaires de véhicules usagés ne pourront donc plus vendre, je ne veux pas forcément dire le nom, là, mais vendront plus de véhicules à essence à partir de 2035. Alors, pour votre question, Marc, on a bien dit véhicule neuf. C'est
exact.
La loi là, du gouvernement Legault, c'est à partir de 2035, ça ne s'applique qu'aux véhicules neufs dans les concessionnaires neufs.
Donc,
neuf.
Un véhicule qui a 6 mois est d'occasion, puis vous pourrez l'acheter.
Exact, voilà. C'est ça. Donc, ce n'est c'est pas là, parce qu'ils se demandent où ça va aller, toutes ces carcasses
Ça va
de voitures à essence. C'est pas la fin de la voiture non plus. Là.
Non, il faut bien comprendre qu'il y a encore 96,5% des véhicules qui roulent au Canada qui sont des véhicules à essence. La moyenne canadienne est à 3,52% en ce moment de véhicules électriques.
Fait qu'on est,
hybride,
est loin,
branchable et électrique. Alors, il y a encore de la marche.
Complètement. On a Christian au bout du fil. Bonjour.
Oui, bon matin. Moi, de mon côté, en fait, il y a toujours le volet nos besoins. Hein.
Ouais.
Moi, je serais électrique actuellement, mais je ne le suis pas. J'ai commandé. En fait, j'ai loué une voiture l'année passée, une Volvo V60. Cross Country Polestar 2020. Dans ma location même, je leur ai fait mention que lors du retour du véhicule en 2023, que je voulais avoir le même modèle, mais électrique.
Aye.
Mais parce que le modèle, évidemment, ici en Amérique du Nord, ne se fait pas, je pense. Mais moi, j'aime plus un véhicule plus familial comme ça, les skis, les vélos à l'intérieur, sans avoir un SUV. Alors, vous voyez, souvent, c'est un équilibre, en fait, entre ce qu'on a de besoin et ce qu'il y a sur le marché actuellement.
Exact. Puis bon, on est à développer des marchés. Là. T'sais, on parlait tantôt, Alain disait que le F-150 Lightning va être une révolution là, parce que c'est un camion. Ça le F-150 est le choc, véhicule, ouais. Ben oui, le véhicule le plus vendu en Amérique du Nord, c'est le F-150. Alors, de rendre un véhicule aussi populaire disponible en version électrique, ça va être un choc pour beaucoup de gens. Puis c'est pas pour rien que Joe Biden lui-même s'est rendu à la présentation la veille à Dearborn. C'est pour bien signifier c'est que sûr. Lui a mis son pied à terre du côté électrique. Puis c'est le modèle qui va faire avaler la pilule aux Américains. Parce qu'il faut bien comprendre qu'aux États-Unis, au Québec...
Pas juste aux Américains. Écoute, j'étais dans le tunnel Ville-Marie il y a 2 jours. Il y avait... Les véhicules, là, c'était 4 pick-up sur 5 véhicules, là.
Mm-hmm.
C'est
bon, ça, ben,
c'est des
F-150 Texas, c'est
ou des
98
Ram.
C'est
ça. Non, mais ouais. Chez nous, c'est comme... C'est, ouais. Écoute, c'était incroyable. Ça m'a frappé là, ouais, tellement oui. Que c'était évident. Tu dis que ça va être un choc, Alain. Pourquoi vraiment? Là? Parce que c'est un, tu veux dire, un choc culturel.
Ben, c'est sûr que, tu sais, on a l'image parce qu'évidemment, les gens qui électrifient ne sont pas les gens qui sont propriétaires de véhicules commerciaux en ce moment, qui n'ont pas des pick-up. Des pick-up, c'est des véhicules de travail. Souvent, les gens, surtout sur les heures durant le jour, sur les routes, les gens qui se déplacent, les gens qui ont un job, souvent des gens qui ont des pick-up parce que ça fait partie de la. Et ça, quand ça va s'électrifier, ça va changer vraiment la façon de travailler, même à la limite, parce que ce véhicule-là, tu sais, le Lightning, je pense qu'il y a comme une génératrice à l'intérieur.
Oh, oui,
on peut se brancher, puis avoir un banc ici, puis un paquet d'affaires. Ça va entraîner un gros changement. C'est là qu'on va voir si, en fait, collectivement, on a la volonté d'électrifier le transport. Parce que à la fin de la journée, c'est un changement pour plein de raisons, mais c'est surtout
l'avenir.
Parce qu'on veut,
moi,
on
ça
veut décarboniser
l'avenir.
Le transport.
Vous pensez pas que c'est ça l'avenir aussi?
Ben, en fait,
c'est de prendre des véhicules.
Oui, on mise beaucoup là-dessus pour que ce soit l'avenir. Il y aura toujours des adeptes de moteurs à essence.
Ouais.
Et que ces gens-là ne s'inquiètent pas. Les moteurs à essence vont continuer d'exister. Les gens qui auront des voitures de collection, les gens qui auront des voitures d'un certain âge, on va continuer de pouvoir les rouler. On se dirige vers une autre étape, mais c'est pas demain matin encore. On procède à petits pas. Et faites-vous-en pas, dans 15 ans, vous allez pouvoir encore rouler un véhicule à essence.
Non, mais oui, c'est clair, mais au moins, on nous aura prévenus. Je pense qu'il y a
une transition.
C'est comme quand ça fait 15 ans qu'on te dit peut-être que tu devrais t'acheter une auto électrique.
Tu sais, soyons honnêtes, ça fait 100 ans que l'automobile n'a pas changé.
Ouais, c'est vrai, t'as raison.
On vend des moteurs à essence depuis que les autos existent.
Exact.
Alors, donc, on arrive à une autre étape. Là.
Chantal, bonjour.
Bonjour. J'avais une question parce que je vous ai entendu parler du Kona, mais je voulais votre opinion sur le Ford Mustang Mach-E.
Ah oui, beaucoup de gens posent la question.
Ben, ça, c'est un peu comme Isabelle, au look, je le trouvais plus beau, mais est-ce que c'est l'équivalent du Kona ou...
Ah non. Un, c'est plus grand. Deux, c'est beaucoup plus dynamique en termes de conduite.
Mm-hmm.
Trois, je trouve l'intérieur, la technologie, la finition de meilleure qualité, mais c'est un petit peu plus cher, mais ça dépend du modèle que vous achetez. Parce que là, il y a des
Mach-E.
Ben, c'est ça. Il y a des Mach-E à 50, puis il y a des Mach-E à 85. Là. Alors, ça dépend. Parce que, bon, plus grosse batterie, plus d'autonomie et tout et tout. Mais je pense qu'autour de 60, vous avez quelque chose qui est extrêmement bien. On l'a eu, je pense qu'Alain aussi, tu l'as essayé.
Oui, ça vaut la peine. Il faut l'essayer. C'est sûr que ça demande le budget qui va avec. Là, y a aucun
mais
doute.
Si le budget vous le permet, c'est un très bon choix. Moi, dans ceux que j'ai essayé en ce moment, là, c'est parmi les plus intéressants.
Bon, ben super ça. Merci de votre question. Ça me fait sourire parce que pendant que Benoît vous décrivait, ben, tu as du 50, mais tu as du 85 selon la batterie. Puis tu as fait l'analogie d'entrée de jeu à la McKenna, qui est aussi un spécialiste des téléphones cellulaires.
Ah oui, c'est vrai. Ben,
et puis tu disais tout à l'heure, c'est un peu comme les cellulaires. C'est tellement vrai.
Ah oui.
Oui, puis c'est pas. Surtout dans le cas du Mach-E, c'est un bel exemple aussi, c'est qu'il va y avoir des mises à jour poussées sur les réseaux sans fil pour modifier le comportement. Tesla le fait déjà depuis quelques années. Là.
Exact.
Donc, on va avoir des mises à jour de son char, comme on a des mises à jour de son iPhone.
Ah oui. Tu te réveilles le matin, tu rentres dans ton auto, tu as eu 3 mises à jour pendant la nuit. Tu as des nouvelles fonctions dans ton auto. Tu n'as rien fait. C'est
ça pourrait,
là.
Ouais. Ça pourrait aussi optimiser le comportement du moteur. Puis avoir,
ben, absolument.
Le service à la clientèle va être aussi mauvais?
Gardez la ligne, votre appel est important.
Oh mon Dieu! Mon Dieu Seigneur, je pourrais vous en raconter en ce moment, j'ai beaucoup de problèmes. On a David qui dit que les assurances vont coûter plus cher. Bonjour David!
Oui, bonjour tout le monde. J'aimerais juste faire un petit commentaire concernant effectivement les assurances. J'ai une amie qui a acheté l'été dernier une japonaise électrique qu'elle a payé 31 000 $ sans les taxes neuves.
Mm-hmm.
Elle a eu un accrochage, elle a tapé la voiture de devant avec sa voiture en ville, donc à faible vitesse. L'assureur lui a envoyé la facture d'information. Elle en avait pour presque 10 000 $ pour changer le pare-choc.
Ah, ça va vite.
Le pare-choc a été changé. 10 000 $ pour changer le pare-choc parce qu'il y a de l'électronique à l'intérieur.
Voilà.
Ouais.
Donc, c'est un pare-choc à un tiers du prix de la voiture.
Et il ne faut pas oublier que ce n'est pas unique aux voitures électriques. Toutes les voitures modernes maintenant ont des caméras, des radars, des sonars qui sont cachés dans les pare-chocs en avant, en arrière. Et si on a le malheur d'écraser le pare-choc, il faut changer toute la Calgary.
Exact.
Même un pare-brise. Hein? Ouais. Les pare-brises maintenant ont des senseurs. Et les gens qui ont des assurances sur leur véhicule qui vont faire changer un pare-brise, des fois sont surpris de voir que ça coûte 2 500, 3 000 $ parce qu'il faut tout rééquilibrer les systèmes électroniques parce que ça se trouve tout dans les pare-brises.
Écoute, tout ce que vous dites, les amis, ça m'est arrivé cette année.
Ben, c'est ça.
Une grosse année.
Écoute, je suis tellement comme Madame Tout-le-Monde qui me dit pas. Non, mais sur le pare-brise, si tu me parles là-dessus, je veux dire, on a... Savez-vous qu'ils mettent des petits points là-dedans?
Bien sûr.
Des petits points, là, tu dis, okay, là, il dit, ah ouais, mais ça, c'est parce que ça vient de coûter 500 $ de plus. Tu dis, OK, mais y a-tu moyen de ne pas mettre ça? Non, ça vient avec. Là, tu es obligé d'avoir, si tu veux vraiment, tu sais, en plus, si c'est un véhicule.
Parce que
louis,
tous les senseurs du véhicule sont reliés à ça, puis la lecture sera pas bonne.
Et veux-tu la bouteille de la chose?
Ah, ouais, donc.
C'est que là, tu dis, OK, ben moi, le payer, je ne ferai pas de réclamation, je veux pas que mes assurances augmentent. Ben, oui. Savez-vous quoi? Ton assurance augmente pareil!
Ça, c'est la chose qu'on n'a pas dit depuis le début.
C'est ça!
Faut pas s'attendre à ce que ça coûte moins cher acheter une voiture.
Non.
Malgré toute la transition dont on parle. Là,
mais y a-tu quelque chose... Écoute, c'est fascinant. L'assurance, assurance, médicaments, tous ces secteurs-là, il n'y a rien qui bouge. C'est comme tu fais rien, tu ne demandes pas plus, tu réclames rien, ça te coûte plus d'argent.
Ah oui.
Puis pas 2 piastres. 20 à 30 % d'augmentation depuis l'année dernière.
Si t'as une réclamation à faire, il faut être courageux.
J'ai vérifié. J'ai vérifié. Écoute, l'année dernière, il y avait à peu près 20 à 25 % d'augmentation. Je me disais, on avait fait des entrevues là-dessus. Non, mais les assurances, si vous me partez là-dessus, jusqu'à demain, là.
Faudrait interviewer un actuaire. Quelqu'un pourrait nous expliquer les calculs derrière ça.
Non, parce que c'est même pas lui qui déciderait. Ah, écoute, moi, je me suis fait dire dernièrement, vous savez, le prix du bois a augmenté. J'ai dit, me niaisez-vous.
Pour les assurances?
Oui. L'assurance habitation, tu savais, le prix de 2x4 a augmenté.
J'ai fait
une réclamation pour reconstruire ma maison, moi.
Je suis en train de payer les 3x6 que j'ai jamais acheté.
Il dit, vous payez pour les autres. Je dis ça, je refuse. Oh, mon Dieu.
Donc, les vieilles station wagon en panneau de bois, ça aurait pris de la valeur.
Probablement. Ouais, c'est ça. Mm. Oh, my God. OK, on va à la pause. On revient tout de suite après.
Ou achetez-vous une Éco 2004. C'est parfait. Il y a zéro électronique là-dessus.
C'est ça. Une trottinette aussi, ça va bien. Alors, je vous rappelle qu'il y a un très, très bon dossier sur les véhicules électriques, les modèles à considérer, le guide d'achat complet, c'est dans le Protégez-vous du mois de juillet. On parle évidemment, bien sûr, là, de l'attrait des Québécois pour les véhicules électriques qui est de plus en plus fort, mais on parle des freins. C'est mon invité Alain McKenna qui a préparé ce dossier. Mm-hmm. Les freins, bon, on en a parlé, le prix, bon, il peut y avoir le look selon...
Oui, pas tout le monde
est
d'accord.
Mais... D'accord, on pourrait faire une heure là-dessus. La batterie, la recharge. Il y a aussi... Bon, le long terme. Je disais, les gens au Québec aiment changer leur véhicule en moyenne. Combien de temps on garde un véhicule, Benoît?
C'est à peu près 7 ans, là. Bon,
7 à 8 ans, oui. Ça s'étire à mesure.
La dernière fois que j'ai vu, c'était en 2018, c'était à 7,6. Mais je n'ai pas vu depuis ce temps-là si ça a bougé.
Alors, est-ce que c'est bon pour l'électrique aussi, dans le fond? Est-ce que cette notion du terme est importante ou non?
C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui s'inquiète. Dans 8 ans, est-ce que je vais avoir encore
là-dessus?
L'autonomie?
Oui.
Évidemment, il n'y a pas une tonne de véhicules électriques en marché qui date d'il y a 8 ans.
À part la Leaf, là, peut-être, là, qui s'en vient là.
La Leaf, les véhicules Tesla.
Ceux qui ont
ce
une
qu'on
Imiev.
Voit, c'est que ça. Ouais, les rares.
Les rares Imiev.
Ouais. L'usure, ou en tout cas le vieillissement, n'est pas aussi rapide qu'on l'anticipait sur, par exemple, l'autonomie des batteries. C'est pas comme un téléphone qu'au bout de 3 ans, tu es comme. Ça, il faut que je le charge à tous les
Non, non, c'est moins pire qu'un ordinateur.
Un an, tu vois.
Oui, ça dépend des téléphones, c'est vrai. Ouais. Mais les voitures ont une assez bonne durabilité.
Puis la garantie, il faut le dire, là, c'est 8 ans, 160 000 km pour la majorité.
Oui, ouais,
il y a des garanties pour les batteries électriques et la plupart des gens vont au-delà de ça. Là. Puis la perte est à peu près, là, en tout cas mesurée, les différents sondages que j'ai lus, c'est à peu près 15 % après 5 ans. Mm-hmm.
Mais j'ai un commentaire que j'adore, c'est Marc. Marc, merci d'avoir écrit ça. Alors, il vous parle, messieurs. Marc, il dit, vous riez bien là, avec ce que ça coûte, mais Isabelle a raison. J'adore ce bout de phrase. J'aimerais ça qu'on me le dise plus souvent. Marc dit, on devrait encore avoir le choix d'acheter une auto de base sans électronique. Il dit, Boswell, faut juste que ça roule.
Ben oui.
Puis il dit, on veut-tu ça, nous? Il dit, sincèrement, c'est même à une certaine façon, jusqu'à un certain point, ça devient même... inéthique.
Ouais,
parce que... Non, mais tu sais, demande-moi mon avis comme consommateur. J'en veux pas de toutes ces bébelles qui vont me coûter de l'argent de tout à l'heure. Moi, c'est 4 pneus, un volant, idéalement pas de trou dans la route, ça aussi, m'aiderait beaucoup. Puis des bons freins, puis du chauffage l'hiver, puis un petit peu de fraîcheur l'été, tu comprends? Mm-hmm. Je veux pas toutes sortes d'affaires d'autres. Une affaire qui m'énerve, c'est quand la voiture décide qu'elle conduit elle-même. Ça, là, moi, je suis pas faite du tout pour ça. Ou quand, vous savez, il y a le petit système électronique qui dit « Ah, oh, t'as dépassé, t'as pas mis ton clignotant.
Ouais, »
Ah, mon Dieu, que je saute dans mon auto.
Je pense qu'on va inviter Isabelle à notre balado.
Oui, non, mais sérieux. Je veux dire, tu sais, Marc le dit, Boswell, on veut juste que ça roule.
Oui, sauf que le problème qu'on a, c'est que les réglementations augmentent, la sécurité est beaucoup plus élevée qu'avant. et on doit se conformer à des règlements de plus en plus sévères et on ajoute la sécurité. Donc, c'est pas nécessairement... Je pense que si les compagnies avaient le choix, il y en aurait moins. Et c'est très difficile aujourd'hui de prendre une voiture qui a rien. Il y a des modèles. Puis le problème, souvent...
Non, Benoît, excuse-moi, mais tu sais, on n'arrête pas de dire « Ah, les conducteurs sont indisciplinés, ils se brossent les dents, ils mangent leur sandwich pendant qu'ils conduisent, ils font toutes sortes d'affaires sauf conduire, puis on leur met des TV dans leur char. » OK?
Il n'y a pas juste ça, mais il y a beaucoup de technologies parce que statistiquement, ça réduit le nombre d'accidents. Et évidemment, il y a de plus en plus de voitures sur les routes, donc plus c'est congestionné, plus il y a de risques d'accrochage. Plus il y a de risques d'accrochage, plus qu'on cherche des solutions. Puis ce qu'on a observé, c'est qu'en ayant certains dispositifs, tu sais, l'antipatinage il y a 10 ans,
là on a les freins ABS. Ça a commencé avec les freins ABS.
Des bons freins, il n'y a pas de problème.
Tous les capteurs de proximité avec le freinage d'urgence automatisé, des choses comme ça, on peut calculer, il y a des chiffres qui prouvent que ça aide à réduire le nombre de collisions, le nombre d'accidents sur la route,
ça
justement,
réduit.
Parce que la distraction est un problème. Oui. C'est aussi causé par une partie de la technologie. Comme tu le dis, les écrans de 18 pouces dans le tableau de bord n'ont aucun bon sens. Cela dit, évidemment, il n'y a pas de télé qui fonctionne quand on se promène, mais il y a quand même beaucoup de distractions et pas seulement à cause du...
Pour avoir discuté avec beaucoup d'ingénieurs depuis une dizaine d'années, tout le monde le dit, ça va devenir plus compliqué avant d'être plus simple. Puis là, on est dans la période où c'est en train de se complexifier pour avoir des systèmes plus organiques, plus simples, plus épurés. On va en arriver là, mais effectivement, là, on essaye d'entrer beaucoup de données dans un très petit espace et on va éventuellement arriver à des choses plus simples, mais on n'est pas tout à fait encore rendu là.
Mais je peux vous dire en tout cas que c'est comme une religion, la voiture électrique au Québec. Il y a des fervents.
Ah,
et là, je peux vous dire, Yves me dit, j'ai 2 volts 2014 à la maison, 7 ans, zéro perte de batterie. C'est un vendu, il est vraiment vendu à ça. Il dit même pas une perte de 1% de ma batterie. Donc, voilà. Vraiment des gens qui sont... J'ai l'impression que quand on y touche, on décroche plus.
Quand on
après.
A adapté, voilà. On reste là, c'est
voilà.
Clair.
C'est ça. C'est comme avec moi.
C'est... Ah! C'est
Isabelle a raison. Moi, c'est ce que je retiens.
C'est mon prochain titre de show. On ne sait pas où, mais quelque part. Allez, merci beaucoup.
Merci,
Alain McKenna, on le lit, bien sûr, le Protégez-vous, vraiment intéressant. Benoît Charrette, bien sûr, votre émission.
On prépare notre émission, ça tient la route, qu'on va cette semaine, la nuée de l'automobile qu'on prépare pour l'automne.
Et voilà. Puis nous, on voit aux nouvelles. On revient tout de suite après.